some friends. I'm the uptown drag. Swimming pool, five car. But a cash, mustache. Bust out the Chris and Dom Perignon. Now's the time for us to get it on. Get the party started in my crib. We can kick it back all night long. Not enough gear in my swimming pool. See the uptown dread I come to rule. I'm the uptown dread. Uptown dread, clothes so nice, gonna make you feel so good tonight. In my king bed, I'm an uptown dread. I will turn you on from dusk till dawn. I'm an uptown dread. An uptown dread. Hey. In my car, you'll drive real far. Wind in your hair. We can live just like we just don't care. That wad of gas. I got my stash. I know how to make you feel so good. I'll buy you things like diamond rings. I will make you feel just like a queen. I'm an uptown dread. I'm an uptown dread. Hey. So check my style, girls gone wild. Money enough, me got the real stuff. Expensive clothes, everybody knows. I'm a king, got everything. I'm on top, I can't stop. Come with me, me got lots of money. Hey, we will have more fun than you can bear.
Même toiletteur que son chien. Pour tout savoir, Radio Campus
92.1.
Ne me permet pas d'avoir mes propres amis.
Il n'aime pas que je passe du temps avec ma famille ou mes amis.
Elle m'a tapé et poussé dans les escaliers.
Il veut m'imposer certaines pratiques sexuelles. Je ne les aime pas, ces pratiques. Et quand je le lui dis, il me dit mais...
Alors qu'il était violent, alors qu'il revient avec un bouquet de fleurs.
Elle critique tout et n'est jamais contente.
Il casse tout dans la maison, ça la signifie. Je pourrais
elle me téléphone sans arrêt sur mon téléphone portable.
Il me dit les enfants ne ferment jamais les portes.
Bienvenue dans notre émission Quand ce n'est plus le cœur qui cogne. Cette émission vous est présentée par Sophie, Sarah et Julien, tous étudiants. Cette émission traite de la vie amoureuse chez les jeunes. Cette réalisation est le fruit d'un partenariat entre Radio Campus, que vous pouvez écouter sur 92.1, et InfoJeune. Cette émission est aussi subventionnée par le Fonds d'aide à la création radiophonique, la Communauté française Secteur Jeunesse et Égalité des chances. Aujourd'hui, nous allons essentiellement nous pencher sur les actions menées auprès des jeunes et parfois auprès des moins jeunes, actions de prévention et de sensibilisation au phénomène de la violence amoureuse. Pour ce faire, nous accueillons trois acteurs de terrain, respectivement Élise Détier, qui représente l'ASBL Garance, et Saldi Véronica et son collègue, éducateur spécialisé qui travaille auprès de l'ASBL, Solidarité Femmes et Refuge pour Femmes Battues à La Louvière. Ces deux invités seront un peu en retard dû au trafic. Le dialogue et les échanges entre nos invités devraient être fructueux, car ils ont l'habitude de collaborer.
Bonjour à tous. Pouvons-nous vous demander de vous présenter, d'expliquer les activités de votre service, son histoire et son actualité ?
Ben oui, donc je m'appelle Élise, je travaille à l'ASBL Garance depuis un petit moment quand même. Et je suis formatrice en autodéfense pour femmes et pour filles. Et donc l'ASBL Garance existe depuis une dizaine d'années, c'est une ASBL bruxelloise. Et nous faisons de la prévention des violences basées sur le genre. Et nous faisons de la prévention primaire des violences basées sur le genre. Alors qu'est-ce que c'est la prévention primaire? C'est développer tous les outils par rapport à ce qu'on peut faire pour arrêter les violences avant qu'elles ne s'aggravent, avant qu'elles n'en arrivent à des formes trop visibles en fait. Comme par exemple la violence physique dans la violence conjugale, enfin voilà. Donc c'est vraiment développer tout ce qu'on peut faire pour empêcher que la violence n'arrive. Voilà.
Le service contribue-t-il à lutter pour l'égalité homme-femme ?
Oui, bien sûr. Bah oui, on sait bien. Enfin, on sait bien. La plupart des gens peuvent avoir entendu parler du fait que dans les violences basées sur le genre, il y a de grandes inégalités entre hommes et femmes. Et que hommes et femmes ne vivent pas du tout les mêmes violences ni de la même manière. Et cela en fonction aussi de l'éducation qu'on reçoit en tant qu'homme ou en tant que femme. Les femmes sont plus exposées en fait statistiquement à des violences de la part de proches au sein de la famille et de l'espace privé. Et les hommes sont plutôt exposés à différents types de violences, mais sont en tout cas beaucoup plus exposés à des violences dans la rue, à l'extérieur et par des inconnus que les femmes.
Quels sont les différents partenaires avec lesquels vous travaillez dans cette lutte ?
Des partenaires, on en a quand même beaucoup. En fait, on n'a pas de partenaire fixe, si je veux dire. On travaille par exemple avec... On a déjà travaillé plusieurs fois, et de façon assez continue, avec le refuge de la Louvière, donc différents espaces ou associations qui travaillent avec des publics de femmes. Mais aussi des espaces où ont lieu des formations par rapport aux violences basées sur le genre, etc. Donc on forme aussi des professionnels, des enseignants. Et oui, je dois dire, on n'a pas de partenaire fixé sur du long terme, quoi.
Voilà. Pouvez-vous nous parler des actions menées dans les écoles ou auprès des jeunes afin de lutter contre les stéréotypes de genre et la violence amoureuse ? Avez-vous des outils ou des méthodes spécifiques pour vous adresser aux jeunes ?
Oui, en fait, on n'a pas d'action non plus continue dans les écoles ou avec les jeunes. Nous, on a plutôt un travail de terrain beaucoup avec les femmes, en fait. Donc, plutôt adultes, je veux dire, à partir de 16, 18 ans, jusque surtout 50-55 ans, et puis on a un petit peu moins de public de plus de 55 ans, mais quand même, maintenant, on a un projet spécifique pour les 55+. Et donc, les jeunes, on les touche plus à la demande. Donc, il y a parfois des écoles, des professeurs de gymnastique, par exemple, qui demandent qu'on vienne donner un cours d'autodéfense à leurs élèves, ou alors des demandes de particuliers qui constituent des groupes pour qu'on vienne donner des cours d'autodéfense pour filles. Voilà.
Est-ce que vous trouvez que ces cours d'autodéfense portent ses fruits ?
Ben en fait,
vous voyez des résultats ?
C'est-à-dire que nous, on rencontre les femmes sur ce laps de temps-là, le moment du cours, qui dure pour la plupart du temps deux journées, ou l'équivalent de deux journées en petite section horaire. Et en général, sur cette période de temps-là, les femmes vivent un changement et elles en témoignent vraiment, surtout au niveau de la prise de conscience, etc., et de l'ouverture que ça leur apporte de partager ça en groupe, d'échanger leurs stratégies et tout ça. Donc voilà, donc nous, sur le laps de temps où on a un contact avec elles, on voit du changement. Maintenant, ce que ça amène par la suite, on n'en est pas témoin, puisqu'on ne les revoit plus, en fait. Mais il y a parfois des personnes qui nous recontactent et ou alors on les croise par hasard et elles gardent la plupart du temps un excellent souvenir de l'expérience, c'est ça.
Et a priori, les jeunes se sentent-ils concernés par la problématique ?
A priori, j'ai plutôt envie de dire non, même si les jeunes, c'est pas du tout un groupe homogène et qu'il y a sûrement des jeunes qui se sentent tout à fait concernés, d'autres qui se sentent pas du tout concernés, d'autres qui ne se sont jamais posé la question, d'autres qui n'ont pas conscience du problème. Enfin, donc voilà. Mais nous, en tout cas, ce qu'on peut voir à travers la demande qui nous parvient pour des activités de prévention de violence, c'est pas les jeunes qui sont les plus en demande. Donc voilà, mais il y a une demande, mais elle est moindre que celle des adultes. Et c'est peut-être dû au fait aussi que les jeunes n'ont pas encore rencontrer tous les obstacles, en fait, que les femmes plus âgées de 30 ans, 35 ans ou 40 ans, qui ont déjà peut-être une vie de couple derrière elles et tout ça, et un cheminement et une autonomie, pris de l'autonomie dans leurs expériences et dans leurs réflexions et façons de penser, de voir et tout ça. Donc, il y a peut-être ça, il y a peut-être l'expérience et le désir de changement après une expérience qui fait qu'on a plus de femmes adultes que de jeunes femmes. Ou... Voilà.
Est-ce que vos actions touchent tous les publics ? J'entends par là le public hétérosexuel, moi aussi homosexuel. Et si oui, est-ce que vous avez des cas différents ? Enfin, mm-hmm. Quelles sont les différences entre homo et hétérosexuel ?
Oui, bah, c'est une question intéressante en fait. Parce que quand on parle de violence conjugale, on pense automatiquement à des violences entre hétérosexuels. Puisque dans l'esprit de la plupart des gens, le couple, c'est le couple hétérosexuel. Donc c'est très bien de soulever ça. Je pense que les violences conjugales touchent de façon, enfin voilà, peuvent toucher tout le monde et peuvent bien sûr, et pas forcément moins violemment, toucher aussi les couples homosexuels. Simplement, il y a peut-être une différence quand même, c'est que on a parlé tout à l'heure d'inégalités de genre, donc d'éducation des filles et d'éducation des garçons. Donc je me dis que entre deux filles ou entre deux garçons, ce ne sont pas les mêmes choses qui se jouent en termes de pouvoir. Et filles et garçons n'ont pas non plus... Enfin, comment dire...
Ils ont entre guillemets la même force.
Enfin, oui, symboliquement.
La même éducation, plus ou moins les mêmes valeurs.
Donc ce ne sont pas les mêmes... Disons par exemple que dans un couple, un stéréotype de virilité, ce serait que... Je suis l'homme, je domine ma femme. Donc voilà. Donc quand je ne la domine pas, je perds mon caractère masculin. Donc panique. Et j'accentue la violence pour rester masculin, entre guillemets. Donc, c'est très stéréotypique, mais voilà, ouais. Pour grossir un peu.
Donc ça, c'est une des causes principales dans la violence entre les hommes et les femmes. Mais entre les homosexuels, quelle est la cause principale ?
Ben, les causes, à mon sens en tout cas, c'est toujours... La cause de la violence, quand elle se perpétue et quand elle a lieu, c'est qu'il y a le désir de prise de pouvoir de un des deux sur l'autre. Mmh. Et cela indépendamment du sexe ou de quoi que ce soit. Voilà, et même en dehors du couple.
Donc, ok, merci.
Et voici une pause musicale du CD Comme on est venu de Danny Klein, intitulé Pauvre diable.
Incroyable, on t'a vu traîner dans les rues à des heures improbables. Hurler à tes amours déçus par un misérable. Une pauvre fille qui se mendie pour un pauvre diable. Pitoyable, tu noies tes illusions perdues dans des bistrots minables. Tu pleures dans des bras inconnus que tu crois charitables. Une pauvre fille qui se mendie pour un pauvre diable. Pour un fils de sœur qui tue avec des mots, un frimeur, un macho que tu avais trouvé beau, un petit escroc à qui tu donnais trop, qui t'a pas fait cadeau quand il t'a tourné le dos. Incurable, on t'a vu errer dans les rues à des heures improbables. Hurler à tes amours déçus par un misérable. Une pauvre fille qui se trahit pour un pauvre diable. Pleurer, tu ne fais que pleurer. Tu vis dans tes pensées et ça te fait pleurer. Pleurer, tu ne fais que pleurer. C'est fini de danser, la fête est terminée. Pitoyable, tu noies tes illusions perdues dans des bistrots minables. Tu pleures dans des bras inconnus que tu crois charitables. Une pauvre fille qui se trahit pour un pauvre diable. Pour un fils de sœur qui tue avec des mots, un frimeur, un macho que tu avais trouvé beau, un petit escroc à qui tu donnais trop, qui t'a pas fait cadeau quand il t'a tourné le dos. Pitoyable, on t'a vu errer dans les rues à des heures improbables, hurler à tes amours déçus par un misérable, une pauvre fille qui se maudit pour un pauvre diable. Pitoyable, une pauvre fille qui se maudit pour un pauvre diable. Pour un pauvre diable.
Pouvez-vous nous parler des différentes formes de violence amoureuse? Et à votre avis, sont-elles en augmentation?
En augmentation. Alors, des différentes formes de violence amoureuse. Bah déjà, le jingle de l'émission en montrait plein. J'écoutais, je me disais une à une. Ah tiens, ça c'est ça, ça c'est ça. disons que déjà, moi, je pense que c'est intéressant de séparer les violences qui sont facilement visibles de celles qui sont moins visibles. Et les deux sont intéressantes à discuter. Mais dans les violences les moins visibles, en fait, moi, je mettrais en fait tout simplement les violences les plus communes, qui sont pas toujours, mais inévitablement, quand il y a de la violence grave, il y a eu un démarrage avant. Ça n'arrive jamais comme ça, subitement. Et voilà, on entendait dans le jingle des extraits de disputes, enfin, parce qu'on ne voit pas le contexte, mais on disait, on entendait dire « elle contrôle toujours mes messages dans mon GSM », je ne sais plus ce qu'il y avait exactement, mais des choses comme ça, voilà. Des choses qui peuvent sembler anodines dans les relations amoureuses et qui, en fait, sont déjà porteuses de tensions, en fait, enfin, génératrices de tensions.
De contrôle de l'autre aussi.
Voilà. Qui sont en fait des tentatives de prise de contrôle de l'autre, oui, de sa vie, d'essayer de rentrer dans la tête de l'autre, savoir ce qu'il pense, à qui il pense, combien de fois est-ce qu'il y pense par jour, est-ce qu'il y pense aussi la nuit. Enfin bon, voilà, donc moi je dirais que ça c'est déjà une forme de violence qui est le plus souvent invisible et qu'on a tendance à banaliser en disant « ah mais il est jaloux, mais c'est pas ce qu'il t'aime », etc. Pour nous, la jalousie, c'est pas grave. Le problème, c'est d'avoir une réaction négative, en fait, par rapport à la jalousie qu'on éprouve et de vouloir demander à l'autre d'avoir un acte qui soulage cette jalousie et de lui dire « fais ci ou fais ça, fais ce que moi je te demande et fais ce que moi je veux parce que moi je suis jaloux et ça me pose problème, en fait. » Donc voilà, pour moi, ça, c'est les formes moins visibles. Et sinon, bah, les formes visibles... Il n'y a pas vraiment à tergiverser, on les reconnaît en général. C'est tout ce qui est plutôt insultes, dévalorisantes,
violences
physiques aussi, oui.
Voilà. Et donc, sont-elles en augmentation, pensez ?
Ça, c'est vraiment difficile à dire parce que... comment ?
Peut-être qu'à l'époque, on en parlait moins aussi.
Voilà, c'est ça. Donc, il y a ça... qui ne permet pas de... Il y a une visibilité des violences qui est peut-être plus grande maintenant... Mais on ne peut pas dire si elles sont en augmentation ou en grande baisse. En tout cas, elles ne sont pas en grande baisse, ça c'est sûr, puisque la visibilité augmente, donc on peut pas dire l'inverse. Voilà.
Et dans la sphère publique, ainsi qu'à l'école, est-ce que ces manifestations de violence sont-elles en augmentation?
Ça, de nouveau, c'est un peu difficile à dire. On parle plus ici de violence amoureuse, alors.
C'est toujours dans les violences... Enfin, sexistes. Plus sexistes qu'amoureuses.
Ouais. Ok. Moi, j'ai l'impression d'entendre quand même beaucoup, beaucoup de... Au niveau verbal, en tout cas. Beaucoup d'interpellations, d'insultes dévalorisantes, sexistes. Surtout envers les femmes, mais aussi envers les hommes. Je veux dire, quand on dit à un homme qu'il n'est pas un vrai mec et des trucs comme ça, ce sont des insultes tout à fait sexistes, en fait. Mais bon, de nouveau, il y a des violences invisibles dans la rue, parce que se faire suivre ou se faire mater de haut en bas, enfin, voilà, ce sont des choses qui sont moins visibles et pourtant qui ont lieu. C'est vraiment difficile de dire si c'est en augmentation ou pas.
Par rapport aux hommes, par exemple, dans la sphère publique, on peut comprendre dans les groupes de sport ainsi que dans les associations.
Oui, par exemple. Oui.
Souvent, ils sont diminués par rapport à leur...
Il y a toujours l'image de l'homme viril, fort, qui ne va pas se laisser faire, etc., qui plane dans les esprits et dans les inconscients, j'allais dire dans les consciences. Mais non, c'est en fait plutôt dans les inconscients. Et c'est vrai que ça, on peut fort le sentir dans tout ce qui est activité sportive ou même chez les enfants, parfois, je veux dire, chez les louveteaux ou des choses comme ça, il y a parfois des gens pas très futés. Voilà.
Et tout de suite, pour illustrer ce propos, nous allons vous proposer d'écouter un extrait audio du film La Journée de la Jupe.
C'est stylé, hein ? Rasse tout ça. Comme t'as joué. C'est moi le boss. Putain, vas-y, fais pas ton juif. Comment je te vois après ? Tu connais le comment, toi ? Espèce de fromage.
Qu'est-ce qu'il contient si important, ce sac ?
Hein ? Il faut être, mais prends-moi ça tout de suite, là !
Parce que vous me tutoyez en plus ! J'en ai assez de vos conneries ! Vous sortez, vous allez chez le principal !
Discute-moi pas, là ! Fais-moi mon sac, putain !
Vous sortez, vous allez chez le principal !
Mais vous n'avez pas le droit, madame ! J'ai pris vos affaires, moi !
T'es assez intelligent pour savoir qu'il n'y a aucun rapport, Mousse ! Tu sors !
Écoutez-moi, madame ! Vous me rendez mon sac de suite, sinon je vous calme ! Alors, là, on va rester calme. On n'en parle même pas au principal. Et je vous jure que plus aucun de ces bâtards de la classe vous fera chier. Vous êtes sous ma protection, madame. Et pour ça, vous savez ce qu'il faut faire, hein? Oh. Mais putain, vous me tuez à la merde! Plus personne ne bouge!
Occupe pas toi, là, reste tranquille!
Vous allez chez le principal. Vous touchez pas à ça. C'est compris ? Vous sortez, vous allez chez le principal. Vous sortez ! Pousse-toi !
Mais t'as trop pris la confiance, toi !
Vous allez chez le principal.
C'est pas nous, madame. Je l'ai emprunté. Les mecs, ils vont nous tuer si on leur amène pas leur affaire. Je vous le jure. Il s'est rien passé. Faut juste faire comme j'ai dit. Et sur la tête de ma mère, ça arrivera à rien.
Je céderai pas. Cette fois, je céderai pas. Vous sentez ? Vous allez chez le principal !
Mais c'est quoi ? C'est rien, ma chérie.
Recule-toi !
Tu t'imagines comment on fait de ta vie juste après ?
Recule-toi ! Recule-toi ! Recule-toi !
Est-ce que t'as idée comment tu vas rentrer chez toi ? Au 22 Boulevard Belleville. 4e étage droit. Hein ? T'as idée de ce que ça te fera sentir deux bites, deux grosses bites, de bamboula, de ramonant, même toi, salope, hein ?
Arrête de déconner, putain !
Ta gueule, toi ! Ta pute ! Ah, la pute !
C'est juste un truc.
Couchez ! Allongez-vous par terre ! Allez, comme à la télé ! M'approche pas. Tout le monde s'allonge par terre.
T'es dans la merde maintenant. Une prof qui boit ses élèves. Putain, tu as morflé.
Par rapport à cet exemple, pouvez-vous nous indiquer comment réagir ?
Comment réagir à la place de la prof ?
Ouais.
Moi, je ne suis pas forcément... je ne sais pas comment j'aurais réagi à sa place, d'abord. Donc, peut-être pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vais juste expliquer ce qui se passe à ce moment-là, parce que la scène, ici, coupée comme ça, ne dit pas forcément ce qui se passe. Donc, il y a une prof qui est dans une salle de spectacle, de théâtre avec ses élèves pour répéter une scène, et il y a des altercations entre élèves qui mènent à... Je pense une altercation entre le prof et ses élèves qui sont en pleine altercation. Et de là, on découvre une arme à feu qui tombe par terre. Et là-dessus, il y en a un qui lui fait du chantage en lui disant qu'elle doit rien dire et tout ça, et qu'il sera soi-disant sous sa protection si elle dit rien, etc. Et elle dit qu'elle en a marre de céder, etc. Voilà. Et finalement, c'est elle qui prend l'arme et qui leur dit de tous se coucher par terre, comme à la télé, etc. Donc voilà, en gros, c'était ça l'extrait qu'on a entendu. Ouais. Donc la question, c'était quoi?
C'est comment est-ce qu'elle aurait pu réagir par rapport à cette situation et...
Ben, moi, je pense que dans l'état où elle est, en tout cas dans le film, on voit qu'elle est dans un état d'usure et que cette situation dure depuis des années, etc. Donc de vivre du harcèlement de la part de ses élèves et qu'elle n'est pas aidée au niveau de l'école. Donc moi, je pense que voilà, qu'elle réagit tout à fait normalement, en fait, par rapport à cette
situation.
Contrairement
à ce qu'on pourrait penser.
Contrairement à ce qu'on pourrait penser, oui. Et que ce n'est pas étonnant. Donc voilà, ici, elle prend l'arme et c'est pas forcément... elle aurait peut-être pu faire autrement, je sais pas.
Mais elle est prise de panique en soi.
Oui, voilà. Elle est prise de panique et elle se rend compte aussi que là, il y a une arme et que, ben, une arme à feu, qu'est-ce que c'est? C'est qu'elle, voilà, elle peut avoir... elle peut se retourner contre nous ou on peut l'avoir en main et à ce moment-là, tout le monde a peur. Donc c'est vraiment un objet qui fait que les rapports de pouvoir sont... Enfin, on a le pouvoir si on a l'arme, en fait. Donc, quand ce pistolet tombe, c'est la grosse crainte de savoir qui va l'avoir en main en premier. On voit le pistolet tomber par terre et voilà. Donc, finalement, je me dis, est-ce que c'était pas très bien que ce soit plutôt elle qui l'ait? Maintenant, dans la suite du film, on voit d'autres choses qui se passent et ça dérape complètement, évidemment. Mais moi, je pense qu'en tant que prof, j'aurais aussi ramassé ce pistolet. Et oui, je pense qu'en tant que prof, j'aurais fait ça aussi.
À présent, un nouvel extrait du film La Journée de la Jupe, où on va plutôt se concentrer sur le fait de pouvoir porter des pantalons.
Laissez-nous le temps de nous organiser. Je vous demanderai quelque chose.
J'ai pas fini en ton plan. Je veux que dans les 2 heures, le ministre de l'Éducation vienne annoncer à la télé que le gouvernement instaure un jour de la jupe une fois par an dans les collèges.
Le jour de la jupe? C'est-à-dire... Non, je n'ai rien contre, Madame Bergerac, mais je voudrais pouvoir expliquer au ministre exactement de quoi il s'agit.
Ce sera un jour où toutes les filles seront invitées à venir en jupe au collège. Un jour où l'État affirme qu'on peut mettre une jupe sans être une pute.
Laissez-moi un peu de temps, Madame Bergerac. Je vais envoyer des journalistes et je transmets au ministre de l'Éducation. Donnez-moi juste un peu de temps.
2 heures. Une journée de la jupe? Non, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, hein? Et pourquoi pas une nuit du string, hein, pendant qu'on y est? On a mis des siècles avant d'avoir le droit de porter le pantalon et elle vient nous faire chier avec sa journée de la jupe et les journalistes en slip. Mais elle est timbrée, ouais.
Longtemps, les femmes se sont battues afin de pouvoir porter des pantalons. Aujourd'hui, Isabelle Adjani, dans le film, se bat pour pouvoir porter une jupe. Comment analysez-vous cette situation?
Bon, alors moi, je trouve ça assez rigolo parce que, voilà, de nouveau, sorti du contexte, c'est assez marrant. Je pense qu'il ne s'agit pas seulement de pantalons et de jupes, en fait. Mais c'est, voilà, c'est plutôt au niveau symbolique que ça se joue et que la jupe ici, la journée de la jupe, ce ne serait pas une journée où on peut porter une jupe, ce serait une journée où on peut arborer des symboles de féminité, sans être humilié, sans être dévalorisé, sans être rabaissé. Donc voilà, moi c'est ça que j'entends, cette revendication, c'est ça. Et il n'est pas question de pantalon ou jupe, quoi. Il est question de la dévalorisation du féminin en général et de ses symboles dont la jupe fait vraiment partie, quoi.
Donc l'extrait que nous venons d'analyser et de commenter met en évidence un climat très tendu à l'école, mais également entre les hommes et les femmes. Donc ceci peut-il en partie s'expliquer par des frustrations, où on pourrait penser que les hommes ne trouveraient plus la femme idéale, la femme bonne mère, la bonne cuisinière, l'amoureuse éperdue, et les femmes ayant gagné en autonomie peuvent donner l'impression d'échapper au contrôle de leurs compagnons et susciter involontairement un surcroît de violence?
En fait, il y a plusieurs choses dans la question déjà. C'est que, je reviens sur la dernière phrase, que les femmes peuvent susciter involontairement un surcroît de violence. Moi, je pense que de toute façon, c'est pas les femmes qui suscitent la violence.
Tout à fait d'accord.
Que la violence, voilà, elle apparaît, elle est manifestée à un certain moment. C'est pas parce que un homme manifeste de la violence, que quelqu'un l'a provoqué ou a cherché ça ou a suscité ça. Donc il y a sûrement une question on parlait de perte de que les hommes ont perdu.
Donc les hommes ne trouveraient plus la femme idéale, la femme bonne mère, bonne cuisinière. Okay.
Donc voilà, donc peut-être, enfin en tout cas on peut dire que il y a des liens certainement entre le changement de l'attitude de certaines femmes, de beaucoup de femmes, ou du changement qui est survenu dans la vie des femmes suite à toutes les révolutions qu'il y a eu et tout ce qui s'en est suivi, et qu'il y a une espèce de crise du masculin et de la masculinité qui suit la crise du féminin et de la féminité, et qu'effectivement ça demande de se repositionner. Maintenant, la réaction violente par rapport à ça n'est pas du tout une réaction qui va faire évoluer les choses dans le sens d'une entente ou de permettre aux hommes et aux femmes de trouver de nouveaux modes possibles, parce que la violence, c'est un mode pas possible de relation.
Donc pour vous, la violence amoureuse, ce serait plus une perte de contrôle ou une prise de pouvoir ?
Une perte de contrôle ou une prise de pouvoir ?
Prise de contrôle.
Une prise de contrôle, oui, certainement. Oui, oui.
Et on ne peut pas penser que quelque part, l'homme sent qu'il perd le contrôle sur sa femme et donc réagit ?
Ben, on peut penser ça, oui. On peut penser ça, dans le cas où c'est l'homme qui est violent, mais dans le cas où c'est la femme qui est violente aussi, on peut le penser. Je pense effectivement que quelqu'un qui a l'habitude d'exercer du pouvoir sur une personne peut devenir violent ou violente s'il sent que l'autre ne répond plus à ce système-là, quoi.
En attendant, on avait pris l'exemple dans une des dernières émissions que, par exemple, un employé face à son employeur, c'est rare qu'il va perdre son contrôle face à des situations qui lui déplaisent ou quoi que ce soit. Il ne va généralement pas perdre son contrôle parce qu'il risque de perdre son emploi, etc. Alors, à mon avis, dans les relations amoureuses, ce n'est pas vraiment une perte de contrôle, c'est plutôt une prise de contrôle.
J'ai pas bien compris la différence.
La différence, c'est que... Comment dire
Que l'enjeu dans la violence dans les rapports professionnels, oui, ça c'est vrai. Oui, parce que dans les rapports amoureux, l'enjeu, il est affectif, et on entend beaucoup de choses du style « mais je ne peux pas vivre sans toi »,« mais je ne peux pas imaginer ma vie sans toi »,« je t'ai tout donné »,« j'ai tout quitté », ou des choses comme ça qui sont très... qui atteignent très très fort dans l'affect et dans les émotions. Et je veux dire, sur le lieu de travail, en général, on n'a pas à entendre ce genre de discours. Ça se passe sur un autre plan. Maintenant, il y a aussi des situations de harcèlement sexuel au travail qui ne sont pas du tout évidentes et qui nous atteignent presque tout autant, parfois plus, dans les affects et dans les émotions.
Peut-on considérer que moins les modèles de genre sont contraignants et hiérarchisés, plus les risques de violence amoureuse sont élevés ou inversement ?
Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que moins les stéréotypes sont présents, moins il y aura de violence. En tout cas, c'est ce que j'espère et c'est mon idéal, entre guillemets. Parce que pour moi, les stéréotypes, c'est déjà une violence en soi. C'est déjà une violence de ne pas être bien comme on est, de devoir ressembler à un idéal toujours complètement inaccessible parce qu'il n'est pas du tout coupé sur mesure, quoi.
On doit tous avoir une espèce d'étiquette. On doit ressembler, on doit être dans une case et être comme ça et pas autrement.
Oui, c'est ça. Et puis, ils sont terriblement exigeants, ces stéréotypes. Ils sont terriblement exigeants, ils sont violents en soi. C'est déjà... violent pour moi-même d'essayer de me conformer à ces stéréotypes. Je veux dire, je vis moi-même des tensions intérieures si je dois me conformer à ces stéréotypes ou constater qu'il y a tel et tel et tel écart et que mes fesses n'ont pas la taille idéale, mes seins ne sont pas à la bonne hauteur, des choses comme ça. Donc ça, c'est déjà violent. Il y a moyen de vivre de la violence en soi-même et vis-à-vis de soi-même. Et ça joue aussi dans la relation avec les autres. Si j'attends de l'autre qu'il se conforme à un idéal de virilité, et je ne parle pas seulement d'image, mais aussi au niveau comportement, attendre de l'autre qu'il me protège ou attendre de l'autre qu'il se soumette, ben, voilà, il n'y a rien qui force l'autre à répondre à ses attentes. Je veux dire, normalement, dans une relation d'égal à égal, et dans l'amour, idéalement, ben, on devrait pouvoir trouver des ajustements et pas violenter l'autre parce qu'il ne répond pas à mes attentes de stéréotypes de genre, quoi.
Et voici une autre pause musicale de Amnesty International dans le cadre de la campagne contre les violences faites aux femmes. Et le titre est « On en a marre ».
Nos conditions de fuir, personne ne s'en soucie. Notre état de congé, personne ne s'y intéresse. Les hommes nous voilent, nous foutent à poil. Ça dépend des habitudes, de leur macho attitude.
Certaines institutions ont tendance à donner à la femme une image de pauvre chose fragile, incapable de réagir et de reprendre sa vie en main. Vous, au contraire, donnez l'impression de penser qu'il existe des moyens pour elle de s'affirmer et de prendre position, notamment en travaillant sur l'estime de soi et la confiance en soi. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'importance de ces notions ?
Oui, ben d'abord, je crois que c'est utile de préciser, quand on dit certaines institutions, voilà, on peut penser à plusieurs choses, mais je pense que les stéréotypes font partie de ces institutions qui donnent a priori pas une image des femmes capables en fait, d'agir. Voilà. Maintenant, ces stéréotypes, c'est ça qui est un peu l'effet pervers, c'est qu'on peut aussi les retrouver dans des campagnes contre les violences conjugales, par exemple.
Vous avez un exemple ?
Oui. Je pense à des campagnes de sensibilisation à la violence conjugale où on voit des images de femmes, des images toutes chiffonnées, des images chiffonnées. C'est un truc qui est revenu plusieurs fois les dernières années. Et moi, je trouve que c'est un aspect des violences. C'est la cause, mais la conséquence, pardon. Mais ça évoque la conséquence de voir une image de femme toute chiffonnée. Mais je trouve que c'est pas ça qui peut aider les gens à se conscientiser dans un sens constructif. Je pense que ce serait plus intéressant de montrer plutôt des images justement de femmes capables, voilà, et pas de femmes victimes, parce que c'est toujours montrer ces images-là, c'est toujours renforcer l'idée que les femmes sont victimes, sont pas capables, et qu'il faut que la solution vienne de ailleurs que d'elles-mêmes, quoi. Donc oui, il y a sûrement plein de choses à faire, que des personnes autour des femmes ou que des institutions pourraient faire, mais les femmes elles-mêmes peuvent faire plein de choses, effectivement. Et c'est là que on peut parler de... Donc c'est par rapport à la confiance en soi. Hein, c'est
et l'estime,
l'estime
de soi.
De soi et la confiance en soi, oui. Ben, déjà, l'estime de soi et la confiance en soi, pour moi, sont deux choses qu'on ne retrouve pas dans, dans les valeurs ou les... Oui, c'est ça, les stéréotypes qui font le féminin. J'ai l'impression que le féminin se définit par s'occuper des autres avant de s'occuper de soi.
Être une mère avant d'être une femme. Et,
Voilà, c'est ça. Donc on ne peut pas s'occuper de soi correctement si on fait passer les autres avant soi. Et c'est d'ailleurs un des pivots sur lesquels s'articule beaucoup la violence familiale, la violence conjugale ou familiale envers les femmes. C'est qu'elles se culpabilisent, elles se demandent est-ce que je vais... donc celles qui ont des enfants par exemple, est-ce que je ne vais pas leur faire du tort si je quitte... Si je quitte mon partenaire parce que les enfants ont besoin d'une famille, etc. Donc, il y a ce truc d'articulation.
Un peu sacrificiel, hein.
Voilà, c'est une image hyper sacrificielle des femmes et de la féminité. Et donc, l'estime de soi, pour moi, c'est le pendant de ça. C'est non, je vaux la peine, je passe avant, je m'occupe de moi d'abord. Et quand je serai bien et quand je suis bien, je peux mieux m'occuper des autres si mon désir est de m'occuper des autres. Voilà, donc pour moi ça c'est une première chose par rapport à l'estime de soi. Et la confiance en soi c'est se sentir capable d'agir et de faire quelque chose. Et ça commence par l'estime. Je vaux la peine et je suis capable de mettre quelque chose en place pour me sortir de cette situation de violence. Et c'est vrai que nous on travaille énormément là-dessus. Donc on montre et on fait échanger les femmes autour de toutes leurs stratégies pour se sortir de situations de violence, que ce soit des situations...
Qu'elles se sentent coupables de cette violence,
voilà, c'est
la faute.
Ça. Oui, et surtout, même si elles se sentent coupables, qu'elles puissent sortir de cette culpabilité pour agir. Mm-hmm. Parce que je pense que quand on vit de la violence, qu'on soit homme ou femme, il y a toujours un moment où on se demande si ce n'est pas notre faute. Peut-être plus chez les femmes, et peut-être que ça dure plus longtemps, et peut-être qu'il y en a qui ne s'en sortent pas de ce sentiment que c'est leur faute. Parce que dans le mécanisme de rapport de genre, il y a aussi ce truc de nourrir la culpabilité de l'autre pour pouvoir le violenter plus facilement. Donc ça fait partie du système aussi de relations violentes. Donc voilà, donc par rapport à l'estime de soi et la confiance en soi, l'un ne va pas sans l'autre quelque part. Et la confiance en soi doit s'appuyer sur l'estime et sur le sentiment d'une valeur propre pour pouvoir grandir, quoi.
Nous avons pu, au cours de l'émission précédente, nous intéresser au mythe du prince charmant. Pensez-vous que ce mythe peut enfermer les hommes et les femmes dans des rôles contraignants et stéréotypés ?
Oui, complètement. Oui, oui. Je pense effectivement que le mythe du prince charmant, c'est... Voilà, c'est des histoires. Moi, j'aurais préféré en entendre d'autres. parce que je pense que c'est très enfermant pour les hommes et pour les femmes. Ces histoires-là de prince charmant, parce qu'en général, le prince charmant, il débarque sur son cheval blanc, la crinière au vent, il vient sortir une princesse ou une pauvrette d'une situation dans laquelle elle est coincée et impuissante.
Elle n'aurait pas pu s'en sortir toute seule.
Voilà, elle n'aurait pas pu s'en sortir toute seule parce qu'elle est écrasée par une belle-mère, par une sorcière... Et par une femme, en fait, dans les deux cas que je viens de donner en exemple. Et donc, le prince charmant va venir la sauver de cette situation catastrophique pour en faire une femme tranquille qui va pouvoir faire des enfants au prince charmant et vivre heureux et très longtemps avec lui.
C'est assez sexiste, en fait.
Oui. Et je pense que c'est très lourd pour les deux, en fait. Je disais pour les hommes et pour les femmes parce que c'est une très lourde responsabilité pour un homme de devoir se dire « Ah, il va falloir que je sois à l'auteur de ce prince charmant et je vais devoir assurer... assurer le bonheur d'une femme, donc même je ne parle pas de le faire, mais de s'imaginer de devoir le faire. Donc c'est quelque chose de très lourd parce que là c'est comme si le bonheur de cette femme dépendait de lui, mais inversement aussi, si on est la... pas la princesse, mais bon, celle qui devient la princesse par mariage, parce que bien sûr, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, on est dans une situation d'impuissance où, on attend que c'est l'autre qui fasse tout, et finalement, c'est pas non plus légitime de faire quelque chose, parce qu'alors, on sort de notre rôle féminin si on fait quelque chose, si on agit, si on n'est pas d'accord, si on n'est pas contente, etc. Donc, oui, on pourrait en parler longtemps de ça, mais je pense qu'effectivement, c'est assez violent en soi, de nouveau, comme mythe, et très stéréotypé.
Aujourd'hui comme hier, il arrive que la reconnaissance et l'intégration à un groupe se définissent pour une fille à travers un garçon. Ceci peut-il, selon vous, constituer une raison pour laquelle une fille hésiterait à quitter son compagnon ?
Oui, bien sûr. Oui, je pense que le fait d'être reconnu dans un groupe, ça peut faire effectivement qu'on hésite à quitter le groupe ou le compagnon et le groupe, parce qu'on sait que voilà, qu'il va y avoir les jugements, enfin tous les jugements, que le fait que le groupe, on a peur que le groupe se retourne contre nous. Je pense que ça peut effectivement, oui, être un motif d'hésitation. Et puis alors, il y a les avis de chacun. Si on se met à en parler, il y en a un qui dira oui, quitte-le, un autre qui dira non, quitte-le pas. Enfin voilà, ça peut être assez embrouillant, mais ça peut être un motif de ne pas rompre une relation, oui, d'avoir peur de ce que vont dire les autres, de comment ils vont réagir, de est-ce qu'on va encore trouver sa place au sein du groupe, etc. Comment est-ce que les autres vont nous voir, comment est-ce que les autres vont parler de nous dans l'entourage, etc. Tout à fait. Dans la violence conjugale, c'est un peu ça qui se passe. Il y a beaucoup de femmes qui ont peur de quitter le mari, parce que le mari ou le conjoint, parce qu'elles ont peur de ce qu'on va penser d'elles. Elles ont peur des jugements, elles ont peur du regard de la famille sur cette situation, de toutes les culpabilisations qui vont arriver. Donc voilà, c'est peut-être un peu le même phénomène, quoi. La peur d'être éjectée, de plus avoir de repères, de plus avoir de points d'attache affectifs, etc.
Amnesty International a mis en évidence des chiffres alarmants. Chaque année, c'est plus de 70 femmes qui perdent la vie des suites de violences conjugales, et cela rien qu'en Belgique. Ce phénomène étant un véritable phénomène de santé publique, les campagnes de sensibilisation devraient-elles prendre plus d'ampleur selon vous ?
Oui, sûrement, mais ça dépend comment, de nouveau. Donc voilà, je disais tout à l'heure que par rapport aux images qui sont véhiculées dans les campagnes, je trouve que ça vaut la peine de se repencher sur cette question-là. Qu'au niveau des campagnes, c'est bien toujours de donner une visibilité aux violences conjugales. Mais il faut faire attention à la façon dont on le fait, parce que si c'est juste pour renforcer les stéréotypes, ça vaut pas la peine. À la limite, c'est l'effet est complètement pervers, quoi.
Donc pour vous, il faudrait faire ça comment ?
Il faudrait créer des images qui vont à l'encontre des stéréotypes. Donc valoriser des hommes capables de respecter une épouse pas d'accord ou une conjointe pas d'accord, et valoriser des images de femmes capables d'agir en cas de violence. Voilà, pour moi ce serait ça, grosso modo.
Certaines campagnes de sensibilisation, notamment en matière de sécurité routière, s'adressent directement à l'auteur. Conviendrait-il également de s'adresser directement aux auteurs de violences afin de décrédibiliser et délégitimer leur violence ?
Oui, certainement. Certainement, je pense que ce serait bien aussi d'inclure les auteurs, oui, effectivement. Il y a eu quelques campagnes... pas forcément des campagnes massives, mais il y a une association, par exemple, qui travaille avec des auteurs de violence, qui s'appelle Praxis, et j'avais lu leur feuillet. Je pense que vous les avez invités.
Non, on les a reçus au cours d'une émission. Oui.
Et donc, sur leur feuillet, ils interpellaient directement les auteurs en leur disant vous contrôlez, vous humiliez, vous insultez, etc., avec chaque fois un point d'interrogation. Alors, et vous cherchez de l'aide par rapport à ça. Vous créez des situations violentes, point d'interrogation. Est-ce que vous cherchez de l'aide ? Enfin, c'était ça la formulation, je ne me rappelle plus exactement, mais c'était plus ou moins ça le sens. Et je trouve ça très bien, parce qu'effectivement, à mon avis, il y a beaucoup d'hommes ou de conjoints ou conjointes violentes qui cherchent une aide. Et le fait de ne pas être assez ciblé par les campagnes... pour ceux qui cherchent de l'aide, ça doit être assez difficile parce qu'ils ne savent pas non plus forcément où s'adresser.
Parfois, il y a aussi un peu la honte.
Voilà, il y a beaucoup de honte, etc. Donc, ils ne savent pas, ils ne se voient peut-être pas aller dire en planning, en cabinet de psy ou je ne sais pas où, qu'ils sont violents et qu'ils ont besoin d'aide, quoi.
Tout à l'heure, nous avons justement cité les clubs sportifs. Par exemple, ce serait peut-être bien de distribuer des prospectus pour les auteurs de violences dans les stades de foot ou dans les clubs sportifs.
Mmh. Oui, certainement. Certainement. Et en même temps, je pense qu'il ne faut pas non plus se dire que les hommes sportifs sont forcément des hommes violents, parce que là, de nouveau, que fort égale violent et tout ça. Et donc, on remélange un peu tout à la sauce stéréotype. Mais certainement que dans les endroits où il y a des rassemblements d'hommes, c'est bien ça peut être utile, en tout cas, de sensibiliser dans ces lieux-là, certainement. D'ailleurs, ça s'est déjà fait, je pense. Ça s'est déjà fait.
Et maintenant, nous allons écouter Elle veut de Dealer de Raga. Bla, bla, bla.
D'un mec plein de bouche qui se la raconte George Bush, mais qui a pas pris une douche depuis une semaine. Ni du mec qui parle trop, qui prétend qu'il est chaud, mais qui sera KO comme le One Minute Man. Ni du mec overbooké qui doit tout décommander, mais qui sera collé à elle tout le week-end. Elle veut pas de ce mec louche qui a l'air d'en tenir une couche, persuadé qu'il a une touche avec elle. Elle veut pas d'un focaïde qui marche le ventre vide parce qu'il a mis toute cette thune dans son bolide. Elle veut pas d'un homme enfant dont faut s'occuper tout le temps, pour lequel il faut jouer le rôle de maman. Elle veut pas d'un taliban qui lui répète tout le temps, j'suis pas satisfait de ton comportement. C'est quoi cet accoutrement, va me changer ses vêtements. Tu sortiras sûrement pas comme ça dans les gens. Elle veut un homme qui l'aime, un qui la protège et un qui la respecte. Ça elle a besoin. Elle veut pas qu'on l'élève, qu'on la contrôle, encore moins qu'on l'enferme. Elle a pas besoin. Elle veut un homme qui se lève, qui soit responsable et qui lui soit honnête. Ça elle a besoin. Elle veut pas quelqu'un d'aide, qui la souffle pour rien et qui fasse la girouette. Elle a pas besoin.
Elle ne veut pas d'une femme qui ne pense qu'à se faire belle. Ni rebelle, ni trop frêle, ni celle sans cervelle.
Il veut
pas d'une missa de balle qui ne prend pas soin d'elle, ni d'une donzelle qui le harcèle sur son fantel. Il ne veut pas d'un pot de peinture couleur pastel, d'une Valentine qui au réveil perd ses pixels.
Il veut
pas d'une actrice,
non, non.
Pas d'une calculatrice. Il
non,
ne veut pas de dominatrice et surtout
non,
pas d'éducatrice.
Non,
ce qu'il recherche c'est une belle famille qui n'a pas peur de bosser dur pour payer ses factures. Il aimerait tant se projeter dans le futur, trouver celle qui enfin pourra soigner ses blessures. Il est tout ce que j'aime. Pour ma part j'arrive plus à m'en passer. Sans lui j'ai plus d'oxygène, j'arrive plus à respirer.
Elle veut un homme qui l'aime, un qui la protège et un qui la respecte.
Ça elle a besoin.
Elle veut pas qu'on l'élève, qu'on la contrôle, encore moins qu'on l'enferme.
Elle a pas besoin.
Il veut une femme qui l'aime, une qui l'accompagne, une qui le respecte.
Ça il a besoin.
Il veut pas qu'on l'élève, qu'on lui prenne la tête. Il veut pas qu'on l'enferme. Il a pas besoin.
Écoute, si tu passes à la maison, je pense qu'il y a moyen peut-être que...
Elle a pas besoin de ton argent qu'elle peut gagner en travaillant, c'est un être indépendant. Tiens, tu peux détacher sa ceinture. Elle a pas besoin de ta grosse voiture,
non, non,
qu'elle pourrait se payer en nature. Tiens,
tu peux remballer ton décolleté, la dire le cœur occupé n'est pas intéressé.
Tiens, tu peux arrêter tes sermons, elle s'est déjà posé la question, elle a sa propre réflexion. Et tout ce que j'aime, pour ma part j'arrive plus à m'en passer. Sans elle, j'ai plus d'oxygène, j'arrive plus à respirer.
Elle veut un homme qui l'aime,
un qui la protège et un qui la respecte. Ça elle a besoin.
Elle veut pas qu'on l'élève, qu'on la contrôle, encore moins qu'on l'enferme.
Elle a pas besoin.
Et voilà, nos deux invités qui s'étaient bloqués dans les embouteillages viennent de nous rejoindre. Bonjour à vous. Malheureusement, il ne reste que quelques minutes d'émission, donc on va faire rapide. Alors déjà, pouvons-nous vous demander de vous présenter, d'expliquer les activités de votre service, son histoire et son actualité?
Alors voilà, bonjour, excusez-nous encore du retard. Moi, c'est Saldi Veronica, donc je suis éducatrice spécialisée
Solidarité Femmes et Refuge pour Femmes Battues de la Louvière. Et en plus de l'hébergement qu'on offre aux dames et aux enfants qui subissent des violences conjugales, on fait tout un travail avec mon collègue ici, Olivier, qui va se présenter après. On fait un travail de prévention auprès des jeunes dans les écoles secondaires, donc des violences amoureuses. C'est-à-dire qu'on les voit plusieurs fois, on les voit plus ou moins 6 heures, et on travaille avec eux comment, dans une relation amoureuse, comment à un moment donné on peut subir du contrôle, comment ça peut virer de la violence. Et on travaille beaucoup sur le contrôle et la violence psychologique, parce que c'est ça qui est le plus dur à détecter. Parce qu'une gifle, de la violence physique, ben ça tout le monde peut le voir, mais tout ce qui est avant cette violence physique, si elle apparaît à un moment donné, ben ça c'est plus compliqué. Et donc on essaye de creuser ça avec eux et de voir un peu l'image du garçon et l'image de la fille dans notre société, si elle a une influence sur ce comportement justement.
D'accord. Voilà, bonjour, moi je suis Olivier Bonnet, donc je suis aussi éducateur spécialisé dans cette ASBL. Et comme vient de l'expliquer Véronica, donc on travaille vraiment avec les jeunes sur cette thématique de violence dans les relations amoureuses. Et pour travailler ça, ben, on y va à deux. Donc on se présente comme un couple au départ, dans le sens où on joue une petite scénette. On se met dans la peau de personnages qui seront en relation amoureuse. Et on montre aux jeunes comment, par où le contrôle peut commencer. Et bien souvent, les jeunes nous disent que c'est des choses qu'ils peuvent vivre, qu'ils peuvent voir aussi dans leur relation amoureuse. Donc le débat commence assez rapidement avec eux et dure parfois très longtemps. Donc là, on a 3 séances de 2 heures. Et bien souvent, ils demandent qu'on revienne les autres années.
Nous ici, ça fait 5 ans qu'on fonctionne ensemble, donc dans les écoles, mais notre ASBL, il faut savoir qu'elle fait de la prévention comme ça dans les écoles, que ce soit en maternelle, mais aussi au secondaire, depuis plus ou moins 10 ans, parce qu'en plus d'accueillir les dames et de leur offrir un hébergement, et donc de travailler leur vécu de violence, ce qui est important, c'est de voir aussi, de prendre le problème plus en amont, je vais dire, et de voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire dans, justement, l'éducation et la prévention des jeunes. Parce que le petit sketch dont vient de parler Olivier, c'est un petit sketch qui commence de manière très banale, que tout le monde a déjà sûrement vécu. C'est le gars qui rentre et qui demande à sa copine, tu ne vas pas sortir comme ça, ça ne va pas du tout. Et souvent, c'est la jupe, le décolleté qui pose problème. Et tout le monde,
maquillage.
Et ça fait écho, et ça fait écho à tout le monde, parce que tout le monde a déjà, à un moment donné, vécu ça avec un de ses copains. Et après, c'est voir comment ça évolue. Alors, chez certains, ça évolue bien, dans le sens où ça se passe bien, on va négocier, lui il va se dire c'est vrai, j'ai déconné, tu mets ce que tu veux, c'est pas ça qui fait que tu vas me tromper ou pas. Et dans d'autres cas, ça peut évoluer mal et du coup elle se soumet, ou bien elle se soumet pas et elle en paye les conséquences, enfin voilà, c'est tout. C'est ce qui marche super bien avec les jeunes du secondaire, c'est aussi des jeux de rôle et de les faire jouer, de les faire bouger et de voir jusqu'où ça peut aller justement.
Donc après cette petite scénette, ça va nous amener à discuter avec eux autour des stéréotypes et des préjugés qu'on peut avoir sur les filles et les garçons qui pour nous vont faire en sorte peut-être qu'à un moment donné, une personne va utiliser ses préjugés pour être violent avec sa compagne.
D'accord. Ce fut court mais très intéressant. Oui. On va devoir arrêter là parce qu'il y a une autre émission à 15h.
Donc nous remercions bien entendu nos invités, Élise Détier, Véronica Saldi et Olivier Bonnet. Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez aller sur les sites www.msansviolence.be et sur le site www.inforjeune-bxl.be. Et si vous souhaitez réentendre cette émission, vous pouvez l'écouter à nouveau sur le site d'InforJeune. Remerciements à ceux qui ont préparé cette émission, Giovanna, Chantal, Dounia et Déborah.
Et nous-mêmes.
Pour rappel, ce programme est subventionné par la Fonds d'aide à la création radiophonique et par la Communauté française Secteur et Égalité des chances.
Au revoir.
Elle ne me permet pas d'avoir mes propres amis.
Il n'aime pas que je passe du temps avec ma famille ou mes amis.
Elle m'a tapé et poussé dans les escaliers.
Hey, Saint-Marcon commence. Quoi? Saint-Marcon commence. Quoi? Sérieux? Allez, viens. Vite, ramène-toi.